de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau bouillon de Chartreuse. Saint-Laurent-du-Pont accueille ce dimanche 30 juin la course emblématique du Grand-Duc, appréciée par ses participants pour l'implication bénévole qui représente tout de même 200 à 300 personnes pour 1000 coureurs, des bénévoles qui sont essentiellement des chartroussins, mais également appréciés pour la beauté de nos paysages. Pour l'occasion, Radio Couleur Chartreuse sera sur place en direct toute la journée de ce dimanche. Mais nous avons, en amont de cette journée, eu l'occasion d'interroger plusieurs acteurs historiques de la course et nous vous livrons donc, en direct live, quelques scoops sur la genèse et l'organisation de cet événement qui fête ses 30 ans en 2019 et croise pour l'occasion l'anniversaire des 20 ans de la route des savoir-faire en Chartreuse. De belles et bonnes opportunités de découvrir et déguster les produits artisanaux locaux. Les coureurs et coureuses partiront dès 4h du matin en solo, duo ou en équipe pour quelques 80 km de course en ce qui concerne le Grand-Duc, l'équivalent de 28 Mont-Blanc en cumulé, 2500 à 3000 mètres de dénivelé pour le Moyen-Duc, et puis la découverte d'un nouvel itinéraire et même la course pour les petits ducs, pour les plus jeunes. Nous commençons par écouter Jean-Louis Monin, maire de Saint-Laurent-du-Pont, ville départ et d'arrivée de la course en 2019. Alors, nous nous trouvons en direct de la mairie avec monsieur le maire Jean-Louis Monin. Bonjour monsieur Monin.
Bonjour.
Et nous venons interroger monsieur Monin sur l'événement du Grand-Duc qui va donc se dérouler le 30 juin prochain à Saint-Laurent-du-Pont précisément pour son 30e anniversaire avec 1000 coureurs qui vont participer. La course est d'ailleurs complète. C'est une course de renommée régionale, monsieur Monin, maintenant le Grand-Duc.
Eh bien, le Grand-Duc, c'était l'initiative de Chartreuse Tourisme. C'est une course qui a fait ses marques, ça c'est évident. Puisqu'il y a 1000 coureurs cette année et les listes ont été arrêtées depuis plusieurs mois. Donc elle est très convoitée par les trailers. Le but premier, il est toujours présent, c'est de faire découvrir les paysages de Chartreuse qui sont très variés et très appréciés par les coureurs. Et également de créer une dynamique sur le territoire au niveau de l'économie, de l'égide, etc. Ce qui est très confortable en ce moment parce que c'est 1000 coureurs, il y a des accompagnateurs, donc on a des gîtes qui sont remplis, on a regardé ça, les familles. C'est un événement important pour la Chartreuse qui se déroule cette année à Saint-Laurent-du-Pont.
Alors, ça se déroule à Saint-Laurent-du-Pont, effectivement, qui accueille pour la deuxième fois le Grand-Duc, puisque ce n'est pas une première. Alors, pourquoi accueillir le Grand-Duc à Saint-Lô, justement ?
Alors, à Saint-Laurent-du-Pont, pourquoi ? On est ville départ et ville arrivée. Pourquoi ? Parce que le stade et les gymnases permettent d'accueillir un certain nombre de coureurs de manière facile. Et puis, ça nous permet de créer également, pour fêter l'événement, des animations autour des arrivées. Et si la journée est très belle, eh bien, on aura vraiment un événement qui va marquer le 30 juin et qui animera notre ville, le stade étant tout proche du centre, etc. Cette année, nous avons eu beaucoup d'animations, des importantes, oui. Donc c'en est une de plus. Et le Grand-Duc, eh bien, il a fait ses preuves. Nous sommes très très heureux de les accueillir et d'accueillir tous ceux qui vont venir fêter l'événement sans faire la course sur le stade Charles Boursier.
Et auprès des divers acteurs économiques locaux qui ne manqueront pas d'être de la partie, j'imagine, pour cet événement particulier. Alors, pour élargir un petit peu l'intérêt pour les Chartroussins, donc les habitants du territoire, de venir participer à cet événement, vous parlez des animations qui sont sympathiques. Quoi d'autre pour eux ?
Alors, évidemment, la grande course, elle est réservée à ceux qui veulent bien la faire. Il y a différents niveaux. Mais on va essayer de créer sur le stade lui-même une petite course d'enfants pour faire participer les enfants. Je sais que c'est en route. Et également, il y aura d'autres animations qui sont préparées par les élus municipaux et les associations qui sont concernées, parce qu'il y a un partenariat qui est toujours très serré quand il y a des événements importants. On ne peut rien faire les uns sans les autres.
Super, c'est une belle coordination et interactivité, on pourrait dire. Alors, on va dire en prenant un peu de hauteur, quel peut être l'intérêt pour des sportifs, quand même un petit peu, il faut l'être, hein, de se mettre à ce genre de discipline qui est le trail.
Là, c'est pour connaître certains coureurs de trail, eh bien, ça nécessite un entraînement régulier, continu, et puis le fait d'affronter les difficultés, parce qu'il y en a des difficultés, eh bien, c'est dans la nature même de la personne qui veut se prouver sur quelle est sa résistance, etc. Alors, pour ma part, je pense qu'il ne faut peut-être pas aller à l'extrême, ça c'est un avis personnel, hein, mais c'est une... C'est vraiment un défi qu'on fait à soi-même. Et je sais qu'il y a de plus en plus de gens, même à Saint-Laurent-du-Pont, qui essayent de, disons, d'aller dans des courses comme celle-ci ou d'autres, même plus difficiles. Mais il y a aussi les randonnées plus tranquilles qui peuvent être abordées par tout le monde. Et voilà. Et je pense qu'en Chartreuse, il existe tous les niveaux, toutes les possibilités, voire même se promener seul, parce qu'il y a des chemins fléchés. Et le fait que notre massif puisse accueillir tous ces gens-là, ben c'est une très bonne raison. Alors il y a les professionnels, entre parenthèses, ceux qui veulent se tester, comme le Grand-Duc, et puis il y a d'autres randonnées qui sont beaucoup plus accessibles par tout le monde.
Mortels, on va dire.
Et il faut les deux.
Voilà. Alors, en parlant de ces randonnées facilement accessibles en partant de Saint-Lô, on a notamment la petite randonnée du chemin historique là, qui monte par la chapelle et qui passe derrière, qui est un joli tour. Et puis, on a aussi le chemin de Côte-Curt, oui. Chemin des artistes. Est-ce que pendant que les coureurs courent, si je puis dire, les familles pourront s'exercer à ce genre de petite randonnée bien sympathique qui permet de s'instruire.
Voilà. Alors, vous avez cité les deux ou trois qui ont été mis en place par la mairie.
Le chemin des pêcheurs.
Ce sont des
aussi,
circuits courts, intéressants. Oui. Il y en a un autre qui est court aussi et qui est très prisé, c'est celui qui est en amont du pont Saint-Bruno.
Voilà.
Un circuit au bord du Guémor, là, qui
pêcheurs.
Emprunte le pont Péran, le chemin des pêcheurs. Donc, il est vrai que les familles pourraient utiliser une heure et demie de marche et puis retourner au stade. C'est-à-dire, on peut aussi profiter de ce qui est très proche de Saint-Laurent-du-Pont pour faire une petite promenade. Il y en a trois ou quatre qui sont ciblés. Voilà.
Et puis qui sont des chemins qui ne sont pas seulement des chemins de randonnée, mais au cours desquels on va découvrir d'une part un petit peu l'histoire de Saint-Laurent pour le chemin historique, d'autre part des œuvres d'artistes
pour Côte-Curt. Donc,
et puis pour le chemin des pêcheurs aussi, un petit peu l'impact des moines sur le massif avec des panneaux installés.
Voilà, ils ont tous un intérêt différent, mais qui peut être bien agréable à profiter, ça c'est évident. C'est une possibilité de petite promenade à faire très proche de Saint-Laurent-du-Pont.
Et très court.
Et très court.
Qui permet d'être vite, rapidement de retour au stade pour accueillir et encourager les coureurs. Un dernier mot sur cet événement, monsieur le maire ?
Eh bien, moi, je suis très content que Saint-Laurent-du-Pont puisse accueillir cette course. C'est quand même une dynamique de Chartreuse Tourisme qui s'occupe du tourisme sur, disons, le périmètre du parc de Chartreuse. Et ça, c'est important de rester un peu territoire avec le côté Grésivoudan, le côté Grenoble et le côté... Chambéry. Donc Chartreuse Tourisme fait un travail de communication et de promotion qui est reconnu par tout le monde. Et cette course est un point fort de leur organisation qui donne une connotation sportive. Et Saint-Laurent-du-Pont, c'est son tour. On est très content de les accueillir. Et surtout qu'elle a une très très grande réussite, 1000 coureurs, etc. C'est-à-dire elle est reconnue par tout le monde, cette course.
Régionalement notamment. Bon, on n'a plus qu'à commander le beau temps pour le 30 juin et tout sera parfait alors.
Voilà, mais le 30 juin, certainement, ça ira très bien.
On l'espère. Merci, monsieur le maire. Georges Gall et Lionel Fouque, coureurs et co-organisateurs de la course dans ses premières années et toujours aujourd'hui, nous présentent la genèse de cette course, son cahier des charges et les coulisses de l'organisation.
Allô, bonjour monsieur Lionel Fouque, donc vous êtes directeur de course, vous m'entendez bien ?
Je vous entends bien, il n'y a pas de problème.
Bah déjà, merci pour toutes les infos dont nous allons parler au sujet du Grand-Duc. Alors le Grand-Duc, c'est 30 ans, c'est une longue et riche histoire. En fait, ça date de 1988 et en fait, c'est original, c'est un défi à la base.
Bah, à la base, en fait, c'est un des premiers trails qui a été en France. Il y en a quelques autres qui ont déjà eu lieu, mais c'était à la base créé par une personne qui travaillait à la Maison de Chartreuse à l'époque, donc structure qui n'existe plus, qui était coureuse-coureur de haut niveau et qui, en fait, a eu cette idée de relier tous les villages de Chartreuse en passant par les sommets.
Oui, donc à la base, c'était donc des amis qui étaient passionnés de montagne et qui cherchaient à entretenir leurs conditions physiques de l'hiver, il paraît. Il y avait Georges Gall dedans. Et il disait qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout d'équipement. On courait tout simplement en t-shirt, on mangeait du riz et des œufs. Enfin, c'était une autre époque. Vous n'avez pas connu, je suppose, cette époque-là.
Alors, j'ai connu à l'extérieur, parce que donc, j'étais déjà en Chartreuse et je ne faisais pas partie de l'organisation. Mais effectivement, au tout début, d'abord, il y avait très très peu de coureurs. Et ils couraient, et comme on court en footing avec le basket qu'on utilise le dimanche. Et puis, au niveau de l'alimentation, comme vous le précisez, c'était vraiment très très approximatif. Voilà, c'était plus à base de saucissons, œufs et vin rouge, quoi.
Oui. Et vous, est-ce que vous êtes sportif ? Est-ce que vous avez déjà... vous êtes directeur de course, c'est un choix ?
Alors, en fait, moi, je suis bénévole, donc je suis accompagnateur en montagne, donc c'est ce qui m'a amené à côtoyer le milieu du Grand-Duc. Et puis, je me suis occupé, j'ai été... président de l'association de développement touristique de Chartreuse, et c'est à ce titre-là en fait que j'ai été amené à m'occuper du Grand-Duc en tant que puisque en fait actuellement c'est toujours Chartreuse Tourisme qui porte le Grand-Duc. Et ensuite, bon, bah après, quand Chartreuse Tourisme a vraiment pris de l'ampleur et a délégué une personne pour s'occuper de l'organisation, moi, je me suis plus occupé du côté bénévole. Et puis, comme disons que j'ai une assez bonne connaissance de la Chartreuse, de ses chemins, donc je me suis occupé de cette partie qui concerne essentiellement les parcours et la sécurité.
Et à la base, ça s'appelait le Tour pédestre de Chartreuse. C'est seulement depuis 1995 qu'on l'appelle le Grand-Duc, en référence bien sûr à un rapace bien connu dans le parc naturel régional de Chartreuse. Il y en a encore beaucoup, des Grands-Ducs ?
Alors, il en reste encore quelques-uns, Grand-Ducs, effectivement, donc dont les lieux sont assez secrets, parce qu'on sait pas trop, on essaie de ne pas trop les déranger. Mmh. Et effectivement, donc ça s'appelait le Tour pédestre de Chartreuse, parce que le but, dès l'origine, c'était de faire connaître l'EGR, Tour pédestre de Chartreuse. Et après, donc, avec l'avènement du parc, qui est le Grand-Duc et l'emblème de la Chartreuse, donc tout naturellement, le nom a été choisi pour avoir un nom un peu original, quoi.
Mais en tout cas, ça a bien marché, parce que depuis 2017, quand même, il y a à peu près 1 million de coureurs, c'est énorme. Un millier, pardon.
Oui. Un million, on aurait du mal à les loger en Chartreuse. Donc c'est vrai que, donc en fait, on a limité les participants à 1 000 coureurs, à la fois pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi dans certains espaces sensibles, on a quelques normes pour pas qu'il y ait trop de monde. Et puis également pour les capacités à pouvoir accueillir tout à fait correctement les coureurs en Chartreuse, parce que c'est vrai qu'à accueillir 1 000 coureurs, c'est vrai qu'à Saint-Laurent-du-Pont, on a les capacités, mais quand on va dans d'autres villages, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et puis l'idée aussi, ça a toujours été que ça reste une manifestation à taille humaine et où en fait les bénévoles sont pas aussi nombreux que les coureurs, mais il y a 200 à 300 bénévoles pour 1 000 coureurs, donc il y a quand même beaucoup de bénévoles qui sont mobilisés.
Et au niveau des courses, donc ça s'est bien enrichi, parce que maintenant il y a la course en relais à 5, il y a en duo, et puis il y a aussi le moyen duc. C'est quoi le moyen duc?
Alors en fait, il y a plusieurs formats de course. Donc la formule reine, donc c'est les 80 km et 4500 mètres de dénivelé. Donc là, ça se fait en solo. Ça peut se faire en relais de 2. Donc on partage, on fait 2 marathons, donc on partage l'épreuve en 2. Ça peut se faire également en relais de 5, c'est-à-dire que en fait une bande d'amis peut faire des étapes tout à fait abordables, puisque ça fait des étapes d'environ 20 km. Et depuis quelques années, on a le moyen duc, qui est la première étape du parcours duo, c'est-à-dire dans relais de 2. Donc c'est le premier relais de 2, donc c'est un marathon en Chartreuse. Donc ça fait environ 40 km et 2500 à 3000 mètres de dénivelé, donc qui permettent de faire un demi-tour de Chartreuse.
Oui, parce que quand même c'est assez énorme, le Grand-Duc 80 km, et en cumulé en fait ça représente un aller Chartreuse-Istanbul à pied, et en dénivelé 28 Mont Blanc cumulé. J'ai été impressionnée là. Hein.
Oui, c'est ce que vous dites.
Et donc, c'est assez mixte comme course.
Alors, sur la partie du solo, on a environ 10% de féminines. Et avec chaque année, des féminines qui sont vraiment très, très performantes, puisqu'on arrive fréquemment à avoir des féminines qui sont dans les 10 premiers. Dans la partie duo, là, on a souvent des équipes mixtes ou des équipes entièrement féminines. Et sur la partie moyen duc, on a pas mal de représentants féminines. Et puis sur les parties relais, alors là, c'est vraiment très mixte, puisque on a quasiment autant d'hommes que de femmes qui font les relais de 5.
Et on disait aussi que c'est l'occasion de découvrir la Chartreuse. Et il y a un nouvel itinéraire exceptionnel cette année au départ de Saint-Laurent-du-Pont. Et c'est l'occasion de découvrir les merveilles du cœur de Chartreuse pour ceux qui connaissent pas ou de les revoir. Il y a plein de points d'intérêt sur le parcours ou à proximité. Il y a par exemple, on peut faire une pause culturelle au musée de la Grande Chartreuse. Découvrir.
Alors la particularité du Grand-Duc, c'est justement de proposer des nouveaux parcours entièrement nouveaux chaque année, avec des points de départ qui sont nouveaux, puisqu'on tourne sur les différents villages de Chartreuse. Et surtout, on est un peu fou parce qu'en fait, on propose un nouveau parcours entièrement nouveau chaque année. Donc, c'est très compliqué au niveau de l'organisation.
Ah oui, j'imagine.
Et donc, cette année, on part de Saint-Laurent-du-Pont. On va commencer par découvrir les gorges du Guémor, donc parcours qui n'a jamais été parcouru. Ensuite, on fait une étape à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On monte ensuite sur le Charmençon, puis la Grande Sûre, avant de revenir à Saint-Laurent-du-Pont. Donc ça, c'est la fin de la première boucle. Et ensuite, la deuxième boucle part de Saint-Laurent-du-Pont, monte sur les hauteurs du Petit-Saône, fait étape à La Ruchère, avant de revenir sur Saint-Laurent-du-Pont par des chemins secrets en forêt, puisque même moi, je les connaissais pas. Et on les a découverts pendant cet automne, et on va les faire découvrir au coureurs.
Et en plus, c'est l'occasion de rencontrer les artisans de la route des savoir-faire de Chartreuse. On peut citer par exemple la chocolaterie Sandrine Chapaz, l'atelier de vannerie de sculpture au couteau bois et lien entre deux guillets, ou encore la ferme Plantimé. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors, tout à fait, puisque donc on est c'est l'anniversaire de la route des savoir-faire, donc qui correspond en même temps aux 30 ans du Grand-Duc. Et c'est vrai que dans toute la Chartreuse, vous avez des artisans et des agriculteurs qui vous accueillent. Donc il y a un document spécifique sur la route des savoir-faire qui est disponible dans tous les offices de tourisme.
Bon. Et en ce qui concerne le programme, donc ça commence le samedi 29 juin à 16h, de 16h à 17h30, remise des Dossard.
Voilà, donc en fait le samedi c'est fait pour justement pour se mettre un peu dans l'ambiance, pour qu'on en accueille tous les coureurs pour récupérer les dossards, puisque comme le départ est très matinal le premier jour, le lendemain, le dimanche, donc il faut qu'on ait le temps de regarder si tout est conforme, répondre à toutes les questions des coureurs, et c'est notamment l'occasion de faire un briefing, c'est-à-dire qu'à Saint-Laurent-du-Pont, on est là et on explique exactement toutes les spécificités du parcours, on donne toutes les règles de sécurité, et également, on donne également tout ce qui est réglementation et tout ce qui peut inclure une disqualification d'un coureur d'une équipe qui fait, qui coupe les lacets, par exemple, qui ne suit pas le chemin balisé, voilà. Donc, en fait, on prend tout ce temps le samedi après-midi et on termine par un pot d'accueil, de façon sympathique, afin de pouvoir renseigner en détail sur toutes les questions que les coureurs pourraient se poser.
Oui, à base de produits locaux pour se donner du courage pour le lendemain, parce que le lendemain, dimanche 30 juin, ça commence quand même à 4h du matin.
Alors, le petit déjeuner est prévu dès 4h du matin. Donc, les coureurs peuvent venir se restaurer, puisque donc le départ pour les solos est à 5h du matin, les duos à 5h30, ensuite vous avez les équipes de, enfin le moyen duc à 6h et les équipes de 5 qui partent à 6h30, et voilà, et c'est parti pour une grosse journée dans les sentiers de Chartreuse.
Et il se passe où ce petit déjeuner ?
Pardon, excusez-moi.
Le petit déjeuner se passe où ?
Alors, se passe donc à Saint-Laurent-du-Pont, au niveau du stade. Toute la manifestation se déroulera au niveau du stade de Saint-Laurent-du-Pont.
Et ensuite, dans l'après-midi, il y a de 14 à 16h, il y a la course des Petits Ducs, un parcours ludique sur une boucle de 700
mètres. Alors voilà,
mètres.
Ça aussi, c'est nouveau depuis 3 ou 4 ans. C'est-à-dire qu'on propose aussi aux enfants qui veulent s'amuser, de découvrir donc sur le stade de Saint-Laurent-du-Pont, faire une ou deux boucles en fonction de leur âge et faire un mini-trail. Et donc ça, c'est une façon, de notamment pour les parents qui suivent les coureurs, de passer un agréable après-midi.
Oui, et c'est pour les enfants de 5 à 12 ans, du coup.
Tout à fait.
Et à 16h30, remise des prix. Alors, moi, je ne suis pas sportive, je ne suis pas trop habituée à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a comme prix ?
Alors là, je n'ai pas le détail, mais voilà, il y a pas mal de... Donc, on travaille en collaboration avec le Red Light, donc on a des équipements sportifs. Il y a aussi beaucoup de produits locaux qui ont été offerts par les commerçants et les artisans de la Chartreuse. Donc, c'est pas des remises, des prix exceptionnels, mais par contre, c'est toujours des choses qui sont avec une forte implication de la Chartreuse. Donc voilà, les gens viennent pas pour gagner un voyage aux Seychelles, ils viennent pour découvrir la Chartreuse et participer à une course dans une ambiance sympathique.
Et on a oublié de dire quelque chose au sujet de la course des Petits Ducs, parce qu'il y a une récompense à l'arrivée. En fait, il n'y a pas de classement, tout le monde gagne, et donc il y a le ravito goûté.
Tout à fait. Donc les enfants ont tous une médaille et ont un ravitaillement à l'arrivée.
Et si on veut inscrire son enfant, il faut s'inscrire en ligne ou alors c'est possible aussi sur place?
Je pense que ça doit. Alors là, j'ai pas l'information exacte, mais pour les enfants, c'est fait quand même de façon assez souple, de manière à ce que les enfants puissent s'inscrire sur place. Par contre, prévoyez d'arriver un peu en avance, de manière à ce que vous ayez le temps de vous inscrire.
Oui, c'est marqué sur place de 10h à 13h. Donc.
Voilà, tout à fait. Ben voilà.
Et bon, au niveau...
plus que moi, voilà, j'ai pas toutes les informations.
Au niveau des animations, il y a plein de choses de prévues. Il y a initiation au yoga, balade en poney, des ateliers manuels, loisirs créatifs. Il y aura aussi un speaker qui sera présent sur la ligne d'arrivée pour accueillir les coureurs et animer la place, bien sûr. Et j'ai pas bien compris, il y a village partenaire, réalité virtuelle, prévention Adrea. De quoi s'agit-il là ?
Alors là, il y a des partenaires qui sont là, qui soutiennent la course, et donc chacun aura un stand et donc présenteront leurs produits ou alors leur manifestation.
Bon. Et vous donc, Lionel, est-ce que vous avez une anecdote qui vous a particulièrement frappé lors des trails précédents ?
Alors, à brûle-pourpoint, ça ne me vient pas, mais voilà, c'est... Ce qui ressort surtout de la part des coureurs, donc en dehors de la beauté des paysages, ce que les coureurs apprécient le plus dans les enquêtes qu'on fait après la course, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ? C'est les bénévoles. C'est qu'en fait, on a beaucoup de bénévoles tout au long du parcours. Et en fait, ce que les coureurs apprécient le plus... C'est vraiment l'implication des gens de Chartreuse sur cette course, puisque je vous dis, c'est à environ 200 à 300 bénévoles pour 1000 coureurs. Donc ça veut dire que voilà, il y a beaucoup, une grande implication des habitants de Chartreuse.
Oui, c'est exactement ce que Thomas Paris a dit, parce que je rappelle, lui, c'est le vainqueur de la 28e édition du Grand-Duc Trail de Chartreuse, et il a dit qu'il gardait le souvenir d'un week-end très convivial entre amis dans un très beau massif qui est celui de la Chartreuse, donc il a souligné lui aussi la convivialité.
Voilà, ben, je crois qu'on est sur la même longueur de onde. Si ce qu'on veut mettre en avant correspond à ce que les coureurs en retirent, c'est qu'on a quand même rempli notre objectif.
Oui, tout à fait. Eh bien, merci Lionel pour ce témoignage. Donc, je suppose que vous y serez. Vous participez pas à la course.
Alors, ça m'est arrivé de faire le premier relais. Mais là, non. Ben, nous, on est là à partir de 3h du matin, 3h30 pour mettre en place le petit déjeuner. Et on sera poursuivre les coureurs toute la journée. Et on terminera pour accueillir les derniers coureurs. Aux environs de 10h du soir, voilà, pour les accompagner, être sûr et surtout bien vérifier que tout le monde est bien rentré et que personne n'est resté dans la montagne.
C'est un événement que vous attendez avec impatience dans l'année ?
Tout à fait, bon, voilà, ça demande beaucoup de préparation, donc qui est fait par Juliette qui est embauchée par Chartreuse Tourisme pour mettre en place, donc c'est elle la véritable cheville ouvrière, mais c'est vrai que ça mobilise toute une équipe de bénévoles et c'est vrai que c'est le couronnement de toute une année de préparation et c'est vrai qu'on attend ça avec impatience.
Eh bien, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée.
Alors, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
I'm gonna toi, cours. Boum, 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 comme si ta vie en dépendait. Et lance-toi, plus court, prends ton envol, cours. Prends mon bureau, garo jaguar, cours. Pour t'imposer, cours. Pour le 9-3, cours. Sois pas statique, cours. Encore plus vite, cours. Fais à l'urgence.
Recevons Monsieur Georges Gall, qui est l'un des cofondateurs historiques et coureurs historiques de la course du Grand-Duc. Bonjour Monsieur Gall.
Oui, bonjour.
Alors, expliquez-nous un petit peu la genèse de votre implication dans le Grand-Duc, qui existe, qui a une petite subtilité puisqu'il existe depuis 31 ans, mais qui ne fête que ses 30 ans cette année.
Oui, c'est vrai. 31 ans, mais 31e édition cette année, en 2019. Pourquoi ? Parce que dans l'année 92, cette épreuve a été faite, mais n'a pas été retenue pour des raisons que j'ai oubliées. Et ceci explique cela. Et effectivement, c'est en 88. En 1988, que la première édition a eu lieu.
Alors, vous étiez à l'époque coureur, dans un premier temps, dans cette course, qui s'appelait d'ailleurs, qui ne s'appelait pas le Grand-Duc, mais qui s'appelait le Tour pédestre de Chartreuse.
Oui, tout à fait, le Tour pédestre de Chartreuse. C'était vraiment les... ce type de course était vraiment... il y en avait très peu au monde. On a été vraiment en Chartreuse les premiers à faire ce type de course. L'organisateur de l'époque, qui était Frédéric Maillet, avait voulu sortir un peu des courses sur route, sur bitume. En sortant des stades, il voulait retrouver l'authenticité, la ruse, quelque chose de rustique. Où les gens se retrouvent dans des massifs un peu comme la Chartreuse pour et faire comment dire faire connaître ce massif qui a de multiples facettes hein, qui est
alors on y reviendra, mais effectivement là vous abordez d'une certaine façon le cahier des charges de la course qui intègre cette dimension là de découverte du massif.
Oui, tout à fait, oui, parce que le but était de vraiment faire découvrir tout le massif. Ce cahier des charges, l'idée, c'était de ne pas avoir un circuit unique tous les ans le même, mais chaque année, changer un peu les parcours, tout en restant sur le cahier des charges qui était à peu près de entre 70 km et 90 km. Avec des dénivelés en 3000 et 5000 mètres de dénivelé positif, en fonction de si le circuit était plus court, eh bien le dénivelé était plus grand, positif. Donc voilà, mais l'idée était de faire connaître un maximum de ce massif. Et je crois qu'aujourd'hui, les organisateurs ont su conserver encore cela, puisque pour la 30e édition, moi, personnellement, j'ai encore découvert deux ou trois petits morceaux que je ne connaissais pas.
Alors, on va en parler un peu plus loin, parce que les exemples que vous me citiez tout à l'heure hors micro sont intéressants. Moi-même, qui habite la Chartreuse depuis longtemps, je ne connaissais pas certains de ces coins. Alors, je disais tout à l'heure en préambule que vous avez commencé la course en tant que coureur, mais, oui. Mais vous êtes passé à un certain moment à l'organisation. Comment s'est faite la transition ?
Bien, de coureur à l'organisation, bien déjà parce que cette course, je souhaitais qu'elle perdure dans le temps, comme elle avait démarré. Faut savoir qu'il y avait à l'époque très très peu de courses de ce type, alors qu'aujourd'hui on est presque envahi on a énormément de choix puisqu'il y en a des dizaines par week-end, mais à l'époque cette course pouvait très bien s'arrêter parce qu'on la disait trop élitiste, il y avait encore peu de coureurs.
Trop dur. Le trail n'était peut-être pas quelque chose de bien commun non plus.
Non, le mot trail
n'existait pas d'ailleurs. Voilà.
Les gens ne s'entraînaient pas de la même façon qu'aujourd'hui. L'alimentation était très différente, enfin, tout ça. Alors, bien, qu'est-ce qui m'a motivé ? Moi, c'était justement de mettre dedans, parce que j'appartenais à un groupe de spiridoniens dans lequel on c'était tout à fait notre ça correspondait à notre façon de voir. Hein, les spiridons, c'est la perte d'accord, mais la fête d'abord. Et donc, je souhaitais que tout ça continue. Et c'est pour ça que je me suis mis dans l'organisation de cette course. Et puis, pour trouver aussi les parcours de ce massif que j'affectionne, puisque j'y habite. Et trouver les plus beaux passages, les plus beaux coins.
D'accord. Alors, cette année, pour le 30e anniversaire, vous vous êtes à nouveau inscrit pour la course, en solo. Avec un défi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce défi par rapport à votre première course en 88 ?
Bien, ce défi aujourd'hui par rapport à la première course. La première course en 88, je n'avais jamais dépassé plus de 20-25 km. Et à l'époque, il faisait 90. J'avais réussi en 15h38. Aller au bout, on était une dizaine. Eh bien, aujourd'hui, mon défi, ça va être 30 ans, 31 ans après, c'est d'arriver dans les mêmes temps. Et c'est 15h38, 16h, ça va être les temps des barrières. Et ça va être ça, mon défi. Voilà. Et ça va pas être un mince défi.
Ça va pas être un mince défi. Je peux me permettre de donner votre âge à l'antenne, monsieur Gall,
ouais,
c'est pas encore un âge astronomique, hein, ça n'est que 65 ans. Mais c'est certainement pas celui que vous aviez il y a 30 ans en arrière. Donc, c'est ce qui risque de contribuer à rendre les choses plus difficiles. Mais enfin, je suis persuadée que vous avez un profil de vrai coureur. Ça ne peut qu'aider.
Mais je m'aperçois que les années, à partir de la soixantaine, elles comptent, je ne sais pas si elles comptent double ou triple, mais d'année en année, les distances et les dénivelés deviennent vraiment des grandes montagnes.
Ah oui, même pour des grands sportifs finalement.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Mais le tout, c'est de...
C'est de participer, comme disait Pierre de Coubertin.
Voilà, et puis c'est la convivialité aussi qu'on retrouve sur cette course. Ça n'a jamais été une course où il y a eu des prix de remis, tout le monde repart avec quelque chose. Il n'y a jamais eu d'argent, jamais de gros lot, mais c'est que cette journée se passe dans la joie, la bonne humeur.
Donc là, on touche un petit peu.
Que chacun puisse se faire plaisir.
Voilà, alors on touche un petit peu au moteur qui vous pousse tous, autant que vous êtes, les participants, à courir les distances qui sont proposées dans cette course. Donc effectivement, la fête et la convivialité d'abord, comme vous l'avez signalé à plusieurs reprises. Et puis, comme vous l'avez également évoqué, le fait de découvrir de nouveaux coins que même en tant que chartrousin depuis plusieurs décennies, vous ne connaissiez pas, et vous me citiez tout à l'heure deux exemples. Est-ce que vous pourriez nous les redonner à l'antenne ?
Oui, parce que pour préparer cette course, j'ai pris un peu le parcours et je suis allé faire quelques reconnaissances. Et j'ai eu vraiment le plaisir à découvrir, même près de la route, près d'une route, près du pont Saint-Bruno, le petit parcours des pêcheurs avec les passerelles à gué.
Qui longe le gué.
Qui ressort au pic de l'Œillette, dans un parcours magnifique au bord du torrent, et que je ne connaissais pas. Un autre point, c'est le Pas du Frou, sur la partie supérieure au-dessus de la route. Je n'avais jamais eu l'occasion de passer, et c'est assez vertigineux, et un chemin assez remarquable, avec des pavés, qui conduit de la Ruchère jusqu'à Saint-Christophe-sur-Guiers. Ce passage, je ne connaissais pas non plus, donc vous voyez, même 30 ans après avoir sillonné en long, en large, la Chartreuse, eh bien, on peut encore découvrir de beaux panoramas, de beaux passages.
Et des chemins anciens, visiblement, puisque si c'est pavé, c'est que ça date d'il y a une certaine époque, ça devait être pratiqué.
En fait, je pense que ce chemin existait bien avant la route aujourd'hui qui relie Saint-Christophe à Entremont-le-Vieux, la route que tout le monde connaît. Oui. Donc c'était l'ancien passage qui conduisait en passant par la Ruchère.
Ah, très intéressant, à explorer, même pour les marcheurs.
Tout à fait, oui, on peut prendre le temps, on n'a pas besoin de courir. D'ailleurs, c'est un passage assez exposé, et je pense que les organisateurs demanderont aux coureurs de ralentir le pas, puisqu'on est dans le sens de la descente. Ouais.
Alors, de votre côté, vous avez quand même été vainqueur officiel 5 fois de cette course et officieux 6 fois. Alors, on dit officieux pour la raison que vous avez expliquée tout à l'heure. Vous pourriez nous la réexpliquer ?
J'ai été vainqueur 6 fois, mais une fois, ça n'a pas été retenu puisque la course n'a pas été validée pour des raisons d'organisation.
Donc en 92, comme on l'a dit.
Oui, en 92. C'est vrai que en 88, j'avais fini dernier, mais content d'avoir fini parce que j'avais jamais fait autant. Après quelques années, en 92, je passais devant. Et puis après, ça a été jusqu'en 99, la dernière année où j'ai gagné à la Ruchère. Voilà, ça remonte déjà à quelques années, mais c'était la course chaque fois, le Grand-Duc, c'était la course que je préparais chaque année avec beaucoup
ferveur.
De... ferveur. Oui, tout à fait. Oui, oui, beaucoup de... Je, pour m'entraîner, bien, je faisais beaucoup de sommets avec, en montant des, dans le sac à dos des cailloux hein, pour, que je posais au sommet, puis je redescendais
plus léger.
Mais mmh. Voilà, et donc aujourd'hui, j'ai le sac à dos, je vais plutôt devant que dans le dos, donc ça arrange pas les affaires. Mais,
oui.
Voilà, on prendra plaisir quand même.
Ben, ça reste très honorable. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour cette course et pour le défi que vous vous êtes fixé. Et puis, on se retrouvera sur place avec plaisir le jour du Grand-Duc.
J'espère, oui. Et je vous remercie oui, de cette interview. Ça fait plaisir parce qu'on parle du massif de la Chartreuse et c'est peut-être un peu présomptueux, mais je dis que c'est mon massif aussi.
Non, c'est pas présomptueux. Je pense que c'est un massif à part entière. C'est pas complètement par hasard qu'on a autant de congrégations religieuses chez nous. Il doit y avoir quand même quelque chose de très particulier dans ce massif. Moi, je le.
Stendhal disait que c'était l'émeraude des Alpes.
Ah, je ne le savais pas. C'est une jolie citation. Bah, écoutez, on va conclure sur cette citation. Et je vous dis à très bientôt. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Day. I was walking naked on the way, while other people passing by, looking amused at this freaky guy. And eyes staring me down, and the police were on my back, chased like a bad, bad maniac. While all my clothes faded away, when I woke up, the tricky day. Lucky day. It is a strange world made of lies. If being naked is a crime, to that cop, I'd say, only this guy is to blame. Well, all my clothes faded away, when I woke up that lucky day, that lucky day. We'll be right back.
de Chartreuse.
Votre magazine local, culturel, éducatif, économique et environnemental.
Pour savoir ce qui se passe autour de chez vous.
C'est le samedi et le dimanche à 11h.
Enfin, nous terminons avec Guillaume Le Maradour, brasseur de bière qui fournit la course en bière locale et pour les lots des gagnants cette année 2019, mais je crois également en 2018. Alors, nous sommes ici à Saint-Pierre de Chartreuse, dans un lieu qu'on va tenir secret pour l'instant, avec Guillaume Le Maradour. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et nous sommes plus spécifiquement à la brasserie de la Marmotte Masquée, tout un programme. C'est une brasserie qui, comme son nom l'indique, produit de la bière depuis 2018 et qui, en l'occurrence, est amenée à brasser la bière qui est spécialement faite pour le Trail du Grand-Duc, et cette bière s'appelle La Duchesse. Alors expliquez-nous un petit peu ce partenariat, parce que c'est la deuxième année que vous travaillez avec le Grand-Duc, Guillaume. Pourquoi ce choix de travailler avec le Grand-Duc ?
Bon, on a été sollicité par l'organisation du Grand-Duc pour brasser la bière La Duchesse et la servir lors de l'événement. Et ça correspond à notre volonté de travailler au plus possible avec le tissu local, les commerçants locaux. Et donc on était très satisfait d'être sollicité par le Grand-Duc, donc on a répondu présent. Ils cherchaient une bière qui était produite localement, bio si possible. Et donc on répondait à leur attente, et ben, on est très satisfait d'y participer.
De cette collaboration. Alors concrètement, ça va se passer comment ? On trouve, je crois, une buvette que vous allez tenir à Saint-Laurent.
Effectivement, on sera sur le stand de la buvette, on servira notre bière, ainsi que les jus de pomme d'André Pascal,
qui est un producteur local
de Saint-Pierre-d'Entremont. Et on proposera également nos bières comme l'eau pour les gagnants des différentes courses du Grand-Duc.
Du Grand-Duc, donc sous des formes de magnum, si j'ai bien compris, ou de bouteilles classiques.
C'est ça, il y aura des magnums à partager, on reprendra deux, trois trucs. Magnum à partager pour les équipes et des bouteilles également pour les participants.
D'accord, alors ça risque d'être sympathique, surtout que s'il fait chaud, je pense que tout le monde appréciera de boire votre bière. Alors justement, qu'est-ce qui caractérise la bière de la Marmotte Masquée ?
Et ben, ce qui la caractérise déjà, c'est que toutes les recettes sont éphémères. Je fais jamais deux fois la même recette, donc ça change à chaque fois. Ça peut perturber un petit peu au départ, mais on essaie d'avoir des étiquettes qui expliquent ce qu'on peut retrouver comme goût dans chaque bière. Et globalement, on fait des bières qui sont plutôt légères, plutôt houblonnées. Donc ça ira très bien s'il fait chaud pour le Grand-Duc, on pourra en boire pas mal. Et on travaille au plus possible en local avec des producteurs locaux, et notamment avec des malteries qui sont en région Rhône-Alpes, avec de l'orge qui vient de Rhône-Alpes et qui est bio.
Rhône-Alpes-Auvergne maintenant.
Rhône-Alpes-Auvergne.
D'accord, alors on vous trouve localement, ça je pense qu'on l'aura compris, on vous trouve en tout cas dans pas mal de commerces de la Chartreuse, mais en dehors du local, est-ce qu'on vous trouve ailleurs ?
Alors, en dehors de la Chartreuse, on trouve également à Grenoble dans certaines caves et bars. Et il se trouve que j'ai un associé qui s'appelle Emmanuel, qui habite Paris, et dont le métier est de distribuer du vin auprès de cavistes et de restaurants, et donc il distribue également la bière qu'il aide à produire. Il vient régulièrement ici pour participer aux travaux de la brasserie, et puis pour brasser. Et donc on trouve également la Marmotte Masquée à Paris.
Très bien. Alors en parlant justement de votre associé Emmanuel Moutot, il y a d'autres personnes qui ont été associées à l'origine et à la genèse du projet, qui sont notamment Clément et Océane, puisque vous êtes le seul à produire et à brasser, mais enfin vous êtes heureusement aidé par vos associés.
Alors j'ai beaucoup de coups de main, effectivement, on est de nombreux associés, et vous avez cité les principaux qui sont Emmanuel, Clément et Océane, et qui aident notamment beaucoup à la rénovation du bâtiment, puisqu'on est installé dans une vieille grange typique de Chartreuse, qu'on a récupérée quasiment en ruine, et ça fait maintenant 4 ans qu'on la rénove, et d'ailleurs elle est encore en travaux, et je pense qu'elle sera encore en travaux pendant quelques mois. Donc je les remercie pour tout le temps qu'ils ont passé à la rénovation du bâtiment, ce qui permet aujourd'hui de commencer à produire des bières plus sereinement.
Voilà, et avec un petit plus côté Emmanuel Moutot qui commercialise, comme vous le disiez tout à l'heure, la bière spécifiquement sur Paris. On va faire une petite visite guidée de cette vieille grange et de la scierie, puisqu'en fait c'est aussi une ancienne scierie. Avant, je voudrais qu'on reparle d'une petite anecdote que vous me donniez tout à l'heure hors micro sur une dimension assez écolo par rapport au fait de retaper les bâtiments. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez fait ?
Effectivement, c'était une idée de notre associé parisien Emmanuel de revaloriser un déchet qui est le bouchon en Liège, puisqu'il travaille dans le vin, donc il en collecte pas mal. Il a commencé à collecter du bouchon de Liège auprès de ses clients et de ses copains vignerons. Et l'idée était de récupérer tous ces bouchons pour isoler la grange. Parce que bon, Chartreuse, il peut faire assez froid l'hiver. Et donc, il a fallu récupérer 4 millions de bouchons. Ça représente à peu près 80 mètres cubes qu'on a triés, réexpansés à la vapeur. On les broie et ensuite on les met en vrac dans les murs et dans la toiture pour avoir chaud l'hiver, ouais, pour brasser toute l'année. Et ça marche très bien.
Et pas trop chaud l'été non plus.
Exactement.
Super. Bon, maintenant on va visiter les bâtiments.
Allons-y.
Ouh, ça craque.
Ah oui, alors ça c'est l'escalier des maisons. J'avais pas les bonnes planches, elles sont un peu trop fines.
Mais c'est pas grave, voilà. Ça fait authentique.
Mais on essaiera de rattraper. Alors je vous montre juste le liège, à quoi ça ressemble.
Au passage.
Voilà, donc c'est ça.
Ah oui.
Voilà. Donc il a été... au départ, on reçoit les cartons ça, là.
Mais alors après, vous le soufflez dans...
Il est même pas soufflé, on le met en vrac, t'as qu'on prend le sac. Ah, oui. Et on les verse, en fait, on les déverse dans les travées, dans les caissons qu'on fait.
D'accord.
Donc là, il y en a par exemple là dans les façades.
Oui.
Il y en a dans le plancher.
D'accord.
Il y en a en toiture, il y en a partout.
D'accord.
Voilà. Alors la seule exception, c'est les petites cloisons parce que c'est compliqué, donc c'est de la laine de bois.
D'accord.
Mais en tout cas, il n'y a pas de polystyrène, il n'y a pas de laine de verre, il n'y a pas de laine de roche, il n'y a rien. On est arrivé, tout a été isolé avec du polystyrène, plein de trucs, on a tout viré. On a fait une grosse dépollution du site.
D'accord, bien. On en reparlera dans un autre cadre.
Oui, et puis même si jamais, voilà, dans l'émission plutôt.
Bon, donc là, on a des sacs.
C'est ça, des sacs de malt.
D'accord.
Donc des sacs de 25 kilos. Ceux-là viennent de la malterie justement qui est en Auvergne, hein, donc régionale, comme en Rhône-Alpes-Auvergne, qui est bio, et qui sert à brasser. C'est vraiment l'ingrédient principal de la bière. Donc le malt, c'est une céréale qui a été légèrement transformée. On a commencé à la faire germer. Et après 4 jours, 4 ou 5 jours de germination, on arrête cette germination avec une soufflerie d'air chaud pour sécher le grain. Ça permet de rendre disponible en fait, toute l'énergie qui est dans le grain sous forme d'amidon. Et aussi de rendre disponible les enzymes qui vont, nous brasseurs, nous permettre de transformer l'amidon en sucre. Parce que pour faire de l'alcool, il faut du sucre.
On n'en parlait à personne. On redescend.
La pâte qui me permet de monter le malt.
Ah oui.
Voilà.
Et mais vous le montez comment ?
Il y a un gerbeur. Un gerbeur.
Qu'est-ce que c'est un gerbeur pour les néophytes ?
C'est comme un transpalette, mais qui permet de monter des palettes en hauteur.
D'accord.
Il y a eu des épisodes un peu dramatiques d'enfermement. On croyait l'avoir perdu. Pendant 3 semaines, il n'a pas mangé. Donc depuis, il a. Il est saturé. Hein. Et encore, là, c'est difficilement faire moins bazar que ça parce qu'il faut un peu produire et pour produire il y a toujours des choses à faire.
Vous avez combien? Alors c'est tonneaux qu'on voit qui sont d'ailleurs amusants, qui sont en bois.
Alors oui, au départ c'est de la récupération, c'est des tanks à lait agricoles.
D'accord.
Qui ont été déshabillés et réisolés et habillés avec du contreplaqué pour tenir l'isolant.
D'accord. Voilà.
En fait quand on brasse là c'est la partie chaude, il vaut mieux avoir une bonne isolation sinon il y a des déperditions thermiques trop importantes. Et puis on ne maintient pas les bonnes températures.
D'accord.
C'est surtout une histoire de température la bière. Voilà.
Okay.
C'est comme de la cuisine un peu. On parle rapidement du process.
Allez-y, allons-y.
Donc on commence par le malt qui était stocké là-haut. Le malt passe dans ce moulin qui est un concasseur qui sert à éclater le grain. Il ne faut pas faire de la farine, il ne faut pas le réduire en poudre, mais il faut éclater le grain pour rendre disponible l'amidon qui est dedans. Et essayer de laisser l'écorce de l'orge la plus intacte possible. Le grain, quand il tombe dans cette cuve-là, il va être mélangé avec de l'eau chaude qui est chauffé avec la chaudière à bois.
Oui.
Et ce mélange-là se fait dans la cuve d'empâtage pour qu'on obtienne un mélange qui est autour de 67 degrés, à peu près. Voilà,
okay.
Plus ou moins 0,5 degrés, ça c'est assez précis. Et c'est dans cette cuve-là, en remuant un petit peu, que l'amidon va se transformer en sucre.
D'accord.
On va faire travailler les enzymes qui vont permettre de transformer l'amidon en sucre. Et donc plus on attend, plus le jus qui est là-dedans va être sucré. Et au bout d'une heure à peu près, on attend, en fait, il faut laisser le temps de réaction de découpage de l'amidon en sucre fermenté cible. Et au bout d'une heure, on va filtrer, parce qu'il y a beaucoup de matières solides en suspension, on va filtrer toutes ces matières solides pour récupérer que la partie liquide qui s'appelle le mou. Et ce mou...
Le mou s'écrit...
M-O-U accent circonflexe T.
D'accord.
Voilà, c'est le même mot que quand on fait du vin ou du cidre. Enfin, quand on presse quelque chose et qu'on obtient un jus sucré, c'est du mou.
D'accord.
Et ce mou, on va le faire bouillir. Contrairement au vin ou au cidre, par exemple, où on presse et puis ça part en fermentation, enfin macération-fermentation, ici, on va avoir une ébullition. Et cette ébullition, elle sert à tout un tas de choses. Elle sert à pasteuriser le produit, donc ça le rend sain. Il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus rien. Ça sert à clarifier aussi, puisque c'est un petit peu comme avec le lait, il va y avoir des précipitations de protéines, hein, ce qui fait que le mou va être plus clair en sortie d'ébullition. Et c'est à ce moment-là surtout qu'on va mettre le houblon.
D'accord.
Et le houblon, c'est une plante aromatique, en fait, c'est des petits cônes, des petites fleurs, qui ont à la fois le pouvoir de rendre la bière amère et de lui donner du goût. C'est deux choses différentes. Pour obtenir de l'amertume, on va mettre le houblon en début d'ébullition. Il faut que ça boue longtemps. Par contre, toutes les huiles aromatiques s'en vont. Pour avoir le côté aromatique, il faut mettre le houblon en fin d'ébullition.
Ouais.
Voilà. Donc il y a deux moments dans le process où on met du houblon, c'est en début, en fin d'ébullition. Et à la fin, on obtient un mou qui est parfumé, qui est amer. Ce mou, on le fait refroidir d'un coup pour éviter les contaminations. La bière est très sensible aux contaminations par, en gros, des familles de bactéries qui ressemblent aux ferments lactiques,
oui,
et qui donneraient une bière très acide qui ressemblerait à du cidre. Donc ça, on essaie d'éviter. Uh-huh. Et donc, à partir du moment où on a fait de l'ébullition, on désinfecte toutes les cuves qui sont en inox, on refroidit la bière d'un coup.
Mais alors, ces cuves, ça sert à quoi,
justement ? Ça, ce sont les fermenteurs, justement.
D'accord, c'est ce qui permet, voilà, de fermenter.
Et donc, la bière, on l'envoie dans ces fermenteurs-là à peu près 20 degrés, et on ensemence avec des levures qui ont été sélectionnées pour faire de la bière, et qui font que de la fermentation alcoolique. Elles transforment le sucre en alcool, en éthanol. Et cette fermentation dure à peu près entre 7 et 10 jours, autour de 20 degrés. Et au bout de cette fermentation, je transfère la bière, parce que maintenant c'est de la bière, hein, puisqu'elle est fermentée,
oui,
dans les tanks de garde où elle est refroidie pendant 3 semaines. Voilà, donc ces tanks de garde, ils sont reliés à un groupe froid, on fait circuler de l'eau froide autour du tank, pour garder la bière à une température la plus basse possible. Alors, on arrive à peu près à 5 degrés, surtout l'hiver.
Oui, l'été, ça pas.
Alors ça pourrait, donc il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut bien maintenir le bâtiment en gel, d'où l'isolation au bouchon. Et la bière, elle reste à peu près 3 semaines dans ces tanks de garde, et suite à ces 3 semaines de garde, je la mets en bouteille et en fût.
D'accord.
Voilà.
Ok, vous livrez des bars ?
Alors, il y a un bar à Grenoble qui prend notre bière en continu, toute l'année, hein, qui s'appelle le Fil Rouge. Voilà, je les remercie.
Pour
ne pas le citer, c'est le seul, donc je peux. Et quelques fois en ponctuel, ici, il y a des bars qui payent ta bière, par exemple, Dr. D, etc., à Grenoble, qui, sur des événements, vont prendre quelques fûts.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et donc, il y a l'embouteillage après.
Voilà,
comment l'embouteillage ?
Alors, une fois que la bière est prête, elle sort du tank de garde, elle est plate, elle n'est pas gazeuse. Donc,
il n'y a pas de mousse, quoi.
Il n'y a pas de mousse, et c'est un peu dommage une bière qui n'a pas de mousse.
Ah, oui, c'est
donc,
ce que je préfère.
Et donc, ce que je fais, c'est que je fais un sirop de resucrage. Je vais compter le volume que j'ai de bière. Je vais compter à peu près 6,5-7 grammes par litre de bière. Donc, je rajoute un petit peu de sucre. C'est du sucre bio, évidemment. Je fais le mélange de sirop avec la bière et je mets en bouteille. Et là, ça repart en chambre chaude pendant 2 semaines pour que la fermentation reparte dans les bouteilles.
C'est ça, voilà. Les chambres chaudes.
Voilà, c'est ça. On va l'ouvrir. La fermentation en bouteille dure minimum 2 semaines, plutôt 3. Et après ces 3 semaines de refermentation en bouteille, la bière est gazeuse.
D'accord.
Et il ne faut pas se tromper sur le dosage, sinon la bouteille peut exploser. Mais vraiment exploser.
Ah oui ?
Là, si on met 10 grammes par litre, par exemple, on peut avoir des bouteilles qui explosent. Alors, heureusement, nous, on utilise des bouteilles champenoises qui tiennent beaucoup la pression. Donc, la bouteille n'explosera pas. Par contre, il y aura une surprise pour celui qui ouvrira la bouteille. Donc, il faut faire attention
champagne
au dosage. Il ne faut pas se tromper sur le dosage du sucre. C'est assez délicat.
Ok.
Voilà. Ah bon, pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis de bière qui explose.
Ouais, c'est... Oui, sinon, la réputation est vite faite. Hein.
C'est assez vite fait, ouais.
D'accord. Tout ça vous prend du temps, c'est un travail à temps plein.
Ouais, alors tout est manuel, l'étiquetage, l'encapsulage, la mise en bouteille, tout ça est manuel. Ce qui fait qu'un brassin demande entre 5 et 6 jours de travail, mais étalé sur un mois et demi.
Ouais.
Voilà, brasser, ça dure une journée, il y a un peu de transfert entre la fermentation et la garde, ensuite il y a l'embouteillage qui va prendre une journée, l'étiquetage qui va reprendre une journée puisqu'on n'a pas d'étiqueteuse, plus le lavage des fûts, la mise en fût, ça prend 5 jours à peu près de travail.
D'accord.
Voilà.
Ok, on rajoute quelque chose ou on a fait le tour ?
On a fait le tour du process, ensuite il n'y a plus qu'à déguster.
Voilà, Bouillon de Chartreuse, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à Saint-Laurent-du-Pont ce dimanche 30 juin pour participer et vivre cette belle course en direct, mais également afin de vous régaler des produits locaux qui seront nombreux et variés lors de cette belle journée, qui promet d'être conviviale, en tout cas c'est la réputation qu'elle a. Merci à Lucas pour la régie et à Fabien pour le montage de l'émission et à très bientôt. Bye bye.